comme tous ceux qui dans le monde entier nous écoutent sur Internet, vous aussi, écoutez Music Box sur le net. Notre mot de passe, musicboxtv.com.
Dites-le à vos amis.
Musicboxtv.com.
Arnaud Tessier publie Philippe Séguin, Le remords de la droite aux éditions Perrin. Philippe Séguin, on se souvient bien de lui parce que d'abord c'était un personnage immense, d'une part, physiquement impressionnant, et puis un personnage politique qui a compté dans cette 5e République, et notamment avec toute la partie construction de l'Europe. Philippe Séguin, donc vous retracez sa vie. Il faut dire qu'il était né à Tunis en 1943, qu'il avait fait l'ENA, et ensuite donc qu'il est entré dans différents ministères, notamment sous Georges Pompidou.
Tout à fait. Il a commencé assez tôt. Après ça, il est sorti des cours des comptes, mais assez tôt, il s'est intéressé au monde politique, au cabinet. Il a été chargé de mission à l'Élysée à l'époque de Georges Pompidou, et très vite, il est entré en politique en se faisant élire député des Vosges en 1978, à 35 ans. Puis maire d'Épinal en 1983, à 40 ans.
Alors, bien sûr, Philippe Séguin, c'est lors de la construction de l'Europe, ça a été un homme très actif. Il y a eu Maastricht, qui a été un tournant aussi. On peut revenir sur cette période?
Oui, c'est au moment du grand débat sur la ratification du traité de Maastricht, qui marquait une orientation nouvelle de l'Europe, avec la construction prochaine de l'euro, de l'union monétaire et une étape décisive vers le fédéralisme. Philippe Séguin a considéré qu'un débat d'une telle importance ne pouvait pas être escamoté par un simple débat parlementaire. Et c'est grâce en grande partie à son action politique et médiatique que François Mitterrand a organisé un référendum qui a donné lieu à un grand débat national. Et Philippe Séguin disait que ça avait été la grande affaire de sa vie à l'époque, parce qu'il s'est vraiment positionné comme l'homme qui était capable de dire non lorsqu'il s'agissait d'évolutions majeures qui entraînaient le destin du pays. Il voulait que les Français soient consultés largement après un très large débat.
Alors ça a été c'était un homme de droite, bien sûr, mais homme qui a... Enfin, homme de droite.
Et c'était pas un homme de droite. À droite, ses camarades politiques, ses amis politiques, et quelquefois je mettrais des guillemets amis, disait qu'il était de gauche en fait, et qu'il avait d'ailleurs commencé à gauche, mais il y en a beaucoup. Il était gaulliste authentique, c'est-à-dire il était ni de droite ni de gauche.
Très tendance actuellement.
Oui, mais c'était pas une attitude, c'était une conviction. Il pensait que la politique devait se situer un peu au-dessus des clivages traditionnels, c'est-à-dire qu'il était à la fois très patriote, partisan d'un État fort, mais en même temps partisan d'un État social. Donc il y avait une dimension qui pouvait paraître autoritaire d'un côté, mais qui en même temps était de gauche sur le plan social. Mais un peu comme De Gaulle. Est-ce que De Gaulle était de droite ou de gauche? Qui peut le dire?
Qui peut le dire? Alors, De Gaulle, je pense que De Gaulle était au-dessus des partis,
voilà.
Comme il se...
Mais c'était un modèle. Oui, voilà, tout à fait.
Alors Philippe Séguin était à la fois un homme qui savait claquer la porte et à la fois un homme qui savait aller devant les électeurs.
Oui, c'est-à-dire que ça a été très net, en particulier lors de sa première campagne électorale ou législative de 78 dans les Vosges, où il y avait une crise majeure du textile dans le département, où les ouvriers étaient complètement désespérés. Il leur a dit la vérité, il leur a dit qu'il y avait des mutations énormes qui se préparaient, qu'il ne fallait pas les nier, que l'État ne pourrait pas sauver certaines activités, donc qu'il fallait préparer des reconversions courageusement. Donc c'est un homme qui aimait dire la vérité, et qui, au risque de l'impopularité. Et il avait été élu parce que, justement, dans une circonscription qui était très difficile, et où il était un peu parachuté, il avait été élu parce que les gens avaient senti qu'il disait la vérité.
Alors quand je disais qu'il était aussi capable de claquer les portes, il a claqué plusieurs fois la porte.
Mais il a claqué la porte du RPR, et puis lorsqu'il était président du RPR, et puis il a quitté la politique en 2002, au moment de la création de l'UMP, parce qu'il a considéré justement que le RPR... Le mouvement gaulliste était encore un mouvement avec un peu de gaullisme, et lorsqu'il y a eu la création de l'UMP, qui est considérée comme une sorte de nébuleuse centro-droitière, il a dit « le gaullisme se droitise, ce n'est plus le mouvement tel que je l'imagine », il a quitté la politique et l'UMP à ce moment-là.
Il était admirateur de Napoléon III.
Il lui a consacré un livre.
Oui, une biographie, effectivement.
Et un livre sur lequel il a travaillé avec beaucoup de passion. Je l'ai vu, d'ailleurs, de mes propres yeux, corriger les épreuves et écrire un certain nombre de choses. Ben justement, ce qu'il aimait chez Napoléon III, c'était le côté social. Alors Napoléon III, évidemment, c'est un régime qui a commencé de manière un peu autoritaire, mais il était fasciné par le modernisme social de Napoléon III du Second Empire.
Alors, vous écrivez donc dans votre livre et ce titre, Le remords de la droite. Vous pouvez expliquer ?
Bah, le remords de la droite, c'est que je pense que quand il est mort, il y a eu une grande émotion qui n'était pas feinte, y compris chez des gens qui lui avaient savonné la planche avec une certaine énergie. Et je crois qu'il y a eu le sentiment qu'il y avait une personnalité qui n'avait pas été utilisée à sa juste valeur et qu'il n'y en aurait plus tellement comme ça à l'avenir. Que la droite a eu ce sentiment, beaucoup de gens à droite ont eu le sentiment que c'est un type d'homme d'État qui était en train de disparaître et qu'on avait peut-être laissé passer l'occasion finalement de remotiver un électorat qui est un électorat gaulliste et qui s'est trouvé désorienté avec les effets qu'on a connus ensuite.
Arnaud Tessier, donc Philippe Séguin, Le remords de la droite. Mais je pense que dans votre livre, vous amenez beaucoup plus de fond sur ce que pouvait être une manière de faire la politique autrement.
Oui, et je parle aussi de l'homme qui était impressionnant physiquement. Et je dirais que c'est une chose qui me frappe, c'est un peu comme les acteurs, c'était une voix. Et c'est une voix que je n'oublierai jamais, une voix très chaude, très puissante et qui était impressionnante.
Il avait un côté Orson Welles un peu. Hein.
Oui, il avait un caractère extrêmement difficile, c'est connu, mais il était charmeur aussi quand il voulait.
Merci Arnaud Tessier.